Bienvenue dans Venu d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Nawal El Amouchi et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Tayeb Ferhadji, pédopsychiatre. Né dans un village d'altitude des montagnes kabyles, il s'installe en France dans les années 90, une traversée qui marque profondément son parcours personnel et professionnel. Sa spécialité, c'est l'ethnopsychiatrie et la psychologie transculturelle. Depuis des années, il accompagne des enfants, des familles, des personnes dont l'histoire est souvent traversée par l'exil, le déracinement ou le choc des cultures. Dans cet épisode, on revient longuement sur son métier, son parcours, sa double culture et sur l'exil, un thème intime qui résonne tout au long de sa vie. Entretien avec Tayeb Ferhadji. Vous êtes originaire de Kabylie.
Oui.
Quand vous pensez à votre enfance en Kabylie, quelle est la première image qui vous revient ?
Quand je pense à la Kabylie ou à l'Algérie en général, la première image qui me revient, c'est celle de la montagne où je suis né. C'est une montagne qui est juste magnifique, d'une splendide nudité, mais d'une beauté. Et puis c'est elle qui m'a appris le monde et son émerveillement. C'est là que j'ai ouvert les yeux, donc j'en garde encore presque les odeurs, les images, les reliefs. Elle est en moi, en fait. Où que j'aille, elle m'accompagne.
Vous pouvez nous préciser, vous venez d'où en Kabylie ?
Je viens d'un tout petit village en Haute-Kabylie qui s'appelle Athergen. C'est un village qui culmine à 1200 mètres d'altitude et qui a la particularité d'être dans ce qu'on appelle un cirque de montagne. C'est-à-dire qu'il est entouré de montagnes. Il y a juste une seule ouverture vers l'est. Et en fait, si on n'est pas, par exemple, dans un avion, il est invisible de partout, on ne peut pas le voir. Il faut monter sur les crêtes. Et du coup, en même temps, il est à l'abri du vent. C'est très particulier, c'est très, très beau. C'est vert quasiment toute l'année. Avant, il y avait des neiges tout le temps, hein, pendant plusieurs mois. Un peu moins maintenant, malheureusement. Devant ma fenêtre, dans la maison de mes parents, je voyais tous les matins le plus grand sommet du nord de l'Algérie, hein, Kabylie Taltat, qu'on appelle plus communément la Lardidja, qui culmine à 2305 mètres.
Monsieur Ferhadji, vous êtes psychiatre.
Oui, je suis pédopsychiatre.
Pédopsychiatre.
Oui.
Dans le village où vous avez grandi, comment est-ce qu'on parlait de la souffrance psychique ou de la maladie mentale ?
Pour tout vous dire, on n'en parlait pas. Parce que d'abord, quand j'y suis né, bien même plusieurs années après, en fait, c'est un village qui était coupé du monde, qui vivait dans une espèce d'autarcie. C'est-à-dire le mode de vie n'a pas changé depuis des siècles. Dans les années 60, quand je suis né, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, pas de facteurs. Les gens vivaient comme ça, encore une fois, depuis très très longtemps. La route, l'eau, l'école, tout ça est venu après. J'étais déjà majeur quand toutes ces choses-là sont arrivées. Donc en fait, bien sûr que la souffrance, elle existait, mais en fait, c'était le compagnon de tous les jours. Et le souvenir que j'en garde, moi, c'était les hommes, c'est des taiseux, ils ne parlaient pas beaucoup. Donc c'était surtout auprès des femmes. Et en fait, les femmes ont parlé de manière poétisée. En fait, c'est des chants, c'est de la poésie. Les rares moments où on était autorisé à montrer sa tristesse ou sa souffrance, c'était quand il y avait des décès, des deuils, des choses comme ça. Mais là, c'était presque scénarisé parce qu'il y a tout un rituel et tout ça. Donc tout le monde, dans ces conditions-là, a le droit de montrer sa souffrance. Mais c'était accompagné, scénarisé, c'était ritualisé. Du coup, c'est très différent de ce qu'on peut voir maintenant ou de ce qu'on peut voir en milieu urbain.
Et actuellement, est-ce que vous savez si c'est envisageable d'aller voir un psychiatre ou même de parler justement de maladies psychiques ? C'est quelque chose qui est encore tabou.
Moi, maintenant, je travaille en France depuis plus de 30 ans. Et en région parisienne, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, en Occident, en France, il y a encore des représentations, une forme de stigmatisation de la santé mentale, la psychiatrie. Les gens ne parlent pas facilement ou ne vont pas facilement voir un psychiatre. Bien sûr, ce n'est pas dans les mêmes proportions, mais parce que je retourne aussi souvent que je peux en Algérie, en Kabylie, dans mon village d'origine, je sais que maintenant, les gens consulte un peu plus facilement, mais le problème se pose d'une autre manière. C'est que l'accès aux soins est encore très compliqué. Par exemple, la pédopsychiatrie n'existe pas encore. elle est quasiment balbutiante. Dans toute la Kabylie, à ma connaissance, il n'y a pas un seul pédopsychiatre, par exemple. Donc voilà, pour les psychiatres d'adultes, il y en a un certain nombre. Je pense que leurs cabinets ne désemplissent pas comme les cabinets des autres spécialistes. Pour autant, je pense qu'il y a une sous-consultation ou que les gens ne vont pas beaucoup, uniquement quand la maladie, la souffrance est bruyante. Quand ça gêne les voisins, ça gêne la famille, ça met en danger la personne, là, effectivement, on n'a pas le choix.
Mais justement, pour vous qui avez évolué et grandi dans ce milieu, à quel moment vous vous êtes dit que vous avez envie de comprendre l'âme humaine et aussi la soigner ?
C'est venu très, très progressivement. D'abord, je pense que la chance que j'ai eue dans mon parcours, je suis incapable de vous l'expliquer, mais j'ai compris très, très vite que pour avoir une chance de sortir du village, où en fait la terre est assez rude, elle est assez pauvre, c'est une terre qui est belle, certes, mais qui n'a pas les moyens de nourrir ses enfants. Ils n'ont pas le choix pour survivre. Ils sont contraints à partir, ils sont contraints à l'exil. Ça peut être un exil local ou un exil un peu plus lointain, comme ça a été le cas pour moi. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir compris très très tôt que pour partir, justement, il fallait réussir mes études. Bien sûr, j'avais un exemple sous les yeux. Mon père a été émigré en France, après il est rentré, sauf que son exil ne lui a pas apporté beaucoup. Les rares occasions où il en a parlé, c'était très très dur. Il travaillait dans une mine, il ne gagnait pas beaucoup, beaucoup de gens autour de lui mouraient. Donc ce n'était pas ce type de projet que j'avais tout petit. Et j'ai compris très tôt que les études, c'était la voie royale pour pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis arrangé pour être bon élève, pour réussir mes études et partir. Mais au début, je voulais juste faire des études pour pouvoir avoir une meilleure vie. Après, progressivement, bien sûr, c'est en particulier à l'adolescence que la question du choix professionnel se pose. Donc j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et comme tous les adolescents, j'ai eu des fantasmes d'être pilote, d'être ingénieur, d'être architecte. Mais en fait, au moment du choix, j'ai décidé de tenter les études de médecine parce que c'était aussi un concours, hein, avec pas de certitude d'y arriver. Après, des événements de vie personnelle ont contribué à ce choix-là. Parce qu'il se trouve que ma propre mère a été malade très très longtemps avant de décéder. Et je sais que tout le temps, elle a commencé à être malade. Moi, je n'avais pas 10 ans. Et elle est décédée une dizaine d'années après. Et en fait, je l'ai vue souffrir sans possibilité de lui porter secours. La première fois qu'elle a été voir un médecin, consulter, en plus c'était juste un médecin généraliste, sa maladie était déjà très très avancée. Maintenant, avec le recul, je sais qu'à ce moment-là, il n'y avait déjà plus aucun espoir de faire quelque chose. Donc l'enfant que j'étais, très très vite, a été habité par une sorte de colère qui s'est transformée en désir de soigner les autres. Faute d'avoir pu soigner ma mère, au moins je vais essayer de soigner les autres. Je suis heureux d'y être un peu parvenu, quoi.
Et vous êtes spécialisé en ethnopsychiatrie ?
En psychologie et psychiatrie transculturelle.
Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la manière de soigner quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça change beaucoup, vous savez pourquoi ? Parce que quand on fait ses études de médecine ou de psychologie, on nous apprend ce qu'on appelle la sémiologie, c'est l'étude des symptômes. On nous apprend à identifier les symptômes, à regrouper les symptômes pour avoir un diagnostic, et c'est à partir du diagnostic qu'on va essayer de soigner son patient. Je vous la fais de manière courte et schématique. Sauf que ce qu'on sait, ce que le quotidien, ce que l'expérience, ce que la vie nous montre et nous apprend, c'est que de la même manière qu'en fonction des aires culturelles, en fonction des pays, on ne parle pas la même langue, on ne mange pas la même nourriture, on ne s'habille pas de la même manière, et bien la souffrance ne se vit pas de la même manière, ne se dit pas de la même manière, le corps n'est pas investi de la même manière, les rêves ne sont pas interprétés de la même manière. Notre culture, c'est une espèce de logiciel avant l'invention de l'informatique qui nous permet de donner du sens au monde autour de nous. Et vous pouvez facilement comprendre que quelqu'un qui a grandi dans l'Atlas ou le Rif marocain ou en Kabylie comme moi, quand il va arriver au Canada, aux États-Unis, en France, eh ben, s'il lui arrive d'être malade, comment il va expliquer sa maladie ? Ben, il va l'expliquer à partir du logiciel qu'on lui a intégré, qu'on lui a transmis dès sa naissance, voire même avant, qui est celui qui lui est transmis par sa culture. Sauf que quand il va à l'hôpital ici en France, ben, l'explication qu'on va lui donner, la manière dont on va le prendre en charge, ne tient pas compte de cette grille qui lui a été transmise et qui lui appartient de manière quasi ontologique à l'intérieur de lui. C'est d'autres personnes qui ont fixé les règles, c'est d'autres personnes qui ont construit le sens, Et lui, en général, il n'y a pas participé. Donc, il peut y avoir des tiraillements, des contradictions, voire même parfois des conflits. Et en fait, cette approche-là, elle a ceci d'original, c'est qu'en fait, elle tient compte de la culture du patient. C'est-à-dire qu'elle essaye d'articuler la manière de faire médicale, la manière de faire moderne, avec la manière de penser culturelle. Parce qu'en fait, un patient, quelle que soit la nature de sa souffrance ou de sa maladie, s'il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, comment on peut l'aider et comment lui, il peut s'activer pour s'approprier en fait sa propre prise en charge, soit ça ne marche pas du tout, soit ça marchera moins bien. Et à chaque fois qu'il peut comprendre le sens de ce qui lui arrive, eh ben, il ne sera plus dans la passivité, il sera plutôt actif. C'est de nature à lui donner plus de tonus, plus d'énergie et va pouvoir du coup mieux tolérer la maladie, prendre plus d'initiatives et comprendre ce qu'on attend de lui. Donc par exemple, si on lui propose un traitement, il va le prendre plus facilement parce qu'il sait pourquoi.
Et est-ce qu'il est donc important qu'une personne qui est issue d'une autre culture ou qui a une double culture, que cette personne aille vers un psychiatre qui
formé...
est la même culture ?
Non, voilà. Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. En fait, c'est une question de positionnement. Vous savez, de manière tout à fait naturelle, dans le quotidien, dans nos relations sociales, on a tendance, et c'est normal, à interpréter le monde en fonction de nos connaissances, de notre expérience, de ce qu'on nous a transmis, de ce qu'on a appris. Sauf que si, par exemple, vous et moi, on vient du même terroir, on vient du même pays, on parle la même langue, on a la même histoire. Donc, par exemple, si on fait de l'humour, on va s'entendre très vite, se comprendre très vite, rire aux mêmes blagues. Vous comprenez ? Mm-hmm. Si la personne que vous avez en face de vous vient du Sri Lanka, du Rif marocain, du pays Bambara au Mali, en fonction du moment où il est arrivé, de son expérience, est-ce qu'il a voyagé ou pas, est-ce qu'il est instruit ou pas, si vous faites de l'humour avec lui, au mieux, il ne comprendra pas. Au pire, il va se dire peut-être qu'elle se moque de moi. Vous voyez, et c'est en ça que c'est important. Donc, c'est notre position, nous, en tant que professionnels, qui compte. Ce n'est pas d'où on vient. Moi, je viens de Kabylie et d'Algérie. Mais grâce à cette formation, à ce parcours, je suis tout à fait à l'aise avec des personnes qui viennent du Congo ou qui viennent du Sud-Est asiatique ou qui viennent d'Europe centrale ou, voilà, ou d'autres pays.
Donc, est-ce que vous le comprenez quand même, ce raisonnement de personnes qui ont envie, en tout cas qui ressentent cette nécessité-là, de se faire soigner justement par un psychiatre qui partage la même culture ?
Moi, je respecte tout à fait les demandes et les désirs des patients. Je dis juste qu'en tant que professionnel, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut être très bien soigné et accompagné par un professionnel qui n'est pas du tout de notre culture, de notre religion et tout ça. Mais si les patients le souhaitent, ben soit. Ce que je leur souhaite, c'est de le trouver quand ils le souhaitent, parce que ce n'est pas toujours évident.
Et est-ce que tous les psychiatres ne devraient pas avoir cette formation-là ?
Dans l'approche transculturelle ou ethnopsychiatrique.
Non,
parce qu'en fait, justement, c'est très important de dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs que nécessairement on a besoin de cette approche-là. C'est pas tous les migrants qui ont besoin d'être traités de cette manière-là. C'est une approche qui est réservée à certaines situations où les gens sont, comme qui dirait, engoncés ou bloqués dans une manière de percevoir le monde, de le penser, qui est restée celle qui était la leur avant leur départ. Mais c'est une minorité. Hein. Tous les migrants ne sont pas comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. La très grande majorité des patients, ils vont dans le circuit normal des soins et ça se passe très bien. Mais de temps en temps, on tombe sur des situations, et ben, le circuit ordinaire qui existe en France, par exemple, ben, ça ne fonctionne pas pour eux. C'est à cela que ça s'adresse. Parce qu'en fait, moi, en tant que professionnel, mon souhait, c'est qu'aucun patient ne soit largué et laissé au bord de la route. Il faut du sur-mesure, c'est-à-dire ceux qui en ont besoin, il faut qu'ils puissent y avoir accès. Donc non, tous les psychiatres ou les psychologues n'ont pas besoin d'être formés à cette approche. Ça reste une approche spécialisée, donc réservée à un tout petit nombre de gens.
Donc c'est des gens qui consultent un psychiatre avant et
voilà,
qui sont ensuite renvoyés
absolument.
Vers...
Absolument. Quand le psychiatre est en difficulté, il voit qu'il y a des choses qui bloquent la prise en charge et que ces choses-là ont à voir avec la culture, là, il les envoie vers moi. Et là, on essaye de dénouer les choses.
Lors d'une récente interview, vous avez parlé d'un parcours parfois schizophrénique pour les médecins étrangers en France.
Moi-même, quand je suis arrivé, j'étais déjà psychiatre, j'étais déjà diplômé, mais je n'avais pas le droit de travailler avec un statut qui correspondait à ma qualification.
Donc là, on revient sur vos débuts lorsque vous...
Oui, mais je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. C'est-à-dire tous les médecins à diplôme hors Union européenne ont connu ça. Et a fortiori, il y a plus de 30 ans quand je suis arrivé. Parce qu'entre-temps, il y a des passerelles qui ont été créées. Parce que la pénurie en médecins est arrivée par la suite en France. Donc il y a des passerelles qui ont été créées. Mais quand moi je suis arrivé, il n'y avait strictement aucune passerelle. Donc en fait, je travaillais à l'hôpital. Mais j'avais un sous-statut ou un statut qui était très précaire, donc je n'étais pas payé à la hauteur de ce que moi je pouvais apporter à l'institution. Donc on attendait de moi de faire un travail de spécialiste, mais je n'étais pas reconnu comme tel. Et c'est en ce sens-là que c'est schizophrénique. Ni payé, ni reconnu comme tel.
Et ça a duré combien de temps?
Ça a duré plusieurs années. Ça a duré à peu près 7 ans.
Et ça ne vous a pas démotivé, cette période?
Ah non, au contraire. Mais vous savez, quand on est jeune, on n'a pas 30 ans et tout ça, on a beaucoup d'énergie. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la colère du petit garçon. Elle ne m'a jamais quitté. Donc, ça aide aussi à dépasser même les épreuves les plus difficiles.
On va revenir juste sur votre double culture. Donc, entre la Kabylie, la France. Est-ce que vous avez eu longtemps cette impression ou pas d'être entre deux mondes?
Ah mais j'aime être entre les mondes. Moi, par exemple, mon pays, c'est la traduction. C'est une métaphore, bien sûr. J'adore circuler entre les mondes et jamais je ne renoncerai à appartenir à plusieurs mondes. Parce que ce que mes parents m'ont transmis est précieux, mais ce que la France m'a donné est tout aussi précieux. Donc je revendique les deux. J'ai fait mon parcours professionnel en France, mais je viens de Kabylie. Donc ma part de Kabylie, j'y tiens, je la chéris, je la cultive même parce que j'y vais, parce que je m'intéresse à tout ce qui concerne ce territoire. Mais en même temps, je suis très heureux d'être en France, je suis épanoui dans mon travail. J'adore le théâtre, j'adore la littérature française, la musique. Mais j'adore écouter Idir ou d'autres chanteurs kabyles, écouter des contes kabyles, voire même les traduire, parce que ça les fait circuler aussi. Je crois que le métissage est la meilleure richesse de l'humanité.
Votre livre, Ces exils que je soigne, à la fois un récit, une réflexion sur la migration. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'écrire cette histoire-là?
C'est à la fois un témoignage et j'ai envie de dire à mon corps défendant. Je ne crois pas avoir, par exemple, beaucoup parlé moi-même à mes enfants de mon parcours et tout ça. Donc, je crois que le livre, ils l'ont lu, tous les deux. Donc, ils ont appris des choses que, par exemple, je n'aurais jamais racontées. Donc, c'est à la fois un témoignage, c'est à la fois une espèce de velléité de transmission. Et puis, c'est aussi un plaisir.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut mieux comprendre les autres quand on ose raconter sa propre histoire?
Non, je crois pas. Je pense qu'on peut mieux se comprendre soi-même quand on écoute les autres et qu'on est attentif aux histoires des autres.
L'exil, on sent que c'est quand même un sujet qui vous parle énormément.
Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on est tous d'une manière ou d'une autre des exilés, sauf que beaucoup l'ignorent.
Et vous êtes arrivé en France dans les années 90?
Au tout début des années 90.
Comment vous l'avez vécu?
À l'époque, sans humour aucun, je n'ai pas eu le temps de le vivre parce que le réel m'a tout de suite bousculé et pris dans ses bras. Donc mon souci, c'était par exemple de faire valoir mes diplômes, de trouver du travail, de faire ma place. Mais j'ai bien vécu. J'ai souvenir de périodes comme ça où j'avais l'impression qu'il me poussait des ailes. J'étais très heureux. Mais j'étais aussi régulièrement rattrapé par ce qui, par exemple, à l'époque, se passait en Algérie. C'était quand même la guerre civile. J'ai laissé ma famille, mes amis, toute une partie, en fait, de moi. Donc, c'était difficile. Mais en même temps, je pense que je l'ai plutôt bien vécu, mais je fais partie de ceux qui ont eu de la chance.
Et donc, vous recevez beaucoup, j'imagine, de personnes donc issues de l'immigration. Quelles sont les blessures et les questionnements qui reviennent souvent?
Je répondrai sur un autre registre. Même si je n'aime pas trop ce concept-là, on parle des enfants, la deuxième, troisième, voire quatrième génération et tout ça. Ce qui me touche toujours beaucoup, et c'est de constater par exemple qu'on n'a pas, pour beaucoup, on n'a rien transmis. Ils savent par exemple qu'ils viennent de tel ou tel endroit, mais on ne leur a pas transmis grand-chose de leur propre histoire, de l'histoire de leurs grands-parents, de l'histoire du pays d'origine de leurs parents. Ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est un peu moins le cas maintenant, mais quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, il était assez régulier que je rencontre des parents qui ont été culpabilisés, par exemple, de parler leur langue à leurs enfants. Ça me touchait beaucoup et ça m'indignait aussi beaucoup, parce que la clinique, on le sait, les études nous l'apprennent très bien. En fait, plus un enfant maîtrise sa langue maternelle, plus il va avoir des facilités à apprendre toutes les autres langues. C'est une consigne aberrante. On aurait voulu faire échouer ces enfants-là dans leur scolarité, on n'aurait pas fait autrement. Ça m'indigne et ça me met en colère et ça me touche.
Si vous pouviez retrouver le petit garçon, j'espère bien prononcer le nom de votre village.
Afergan.
Eitelgan.
Eitelgan, oui, Eitelgan, Afergan, oui.
Donc le petit garçon que vous étiez, qu'auriez-vous envie de lui dire aujourd'hui?
Ben, je lui aurais dit, mais sacré bonhomme, si tu sais ce qui t'attend, parce qu'il en a fait du chemin quand même. Je pense que si je devais choisir à nouveau, je crois que je choisirais de naître dans le même village, dans la même famille, et de refaire le même parcours.
Qu'aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui grandissent aujourd'hui justement entre ces différentes cultures?
Ben, leur dire que je les connaisse ou pas, je suis convaincu que la majorité, sinon tous, recèlent en eux des ressources qui peuvent leur permettre de rebondir, d'aller loin et tout ça. Donc j'ai envie de leur dire, croyez en vous et ne lâchez rien.
Merci beaucoup, Tayeb Ferahadj, d'avoir pris le temps.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode de Venu d'Orient avec Tayeb Ferahadj, pédopsychiatre. C'était Nawal Elamouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.